C'était une grosse organisation d'organiser ça. On se retrouve tous ensemble avec Jérémy, Bérébi. Je vous demande des applaudissements pour lui. Parce que... Je vais demander de partout pour qu'il vienne ou qu'il parte. En tout cas, on a la chance qu'il va être avec nous. Alors, il va y avoir, on a convenu ensemble qu'il va d'abord faire une conférence, mais il y aura aussi une partie questions. Questions devant tout le monde et questions personnelles. Et après, à la fin, il a convenu qu'il pourra donner son mail pour les gens qui ont des questions intéressantes. Donc.
J'ai pas dit ça, c'est pas vrai.
On éteint les portables, on enlève tout le son.
Question tout court.
On enlève, voilà, moi le premier. On enlève le son des portables. Et aussi autre chose, c'est bon.
Bonjour à tous. Je vais me présenter en quelques mots, quelques minutes plutôt. Jérémy Bérébi, j'ai 38 ans, j'habite à Bnei Brak avec mes 12 enfants, 13 dans quelques heures, jours. Donc, HM. Voilà, merci. Attendez, je vous dirai après. Merci. Donc en fait, merci beaucoup. Donc en gros, ma petite histoire, c'est que moi, je suis un jeune des écoles juives. Donc en fait, j'ai passé mon enfance à Or Yosef, dans le 19e, à Paris. Mes trois dernières années de lycée, je les ai passées à Maïmonide, ou plutôt je les ai passées tout en travaillant, puisque j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, où je suis devenu journaliste informatique. Et en 1994, j'ai été un des tout premiers à parler d'Internet et à devenir le spécialiste d'Internet dans la presse française. À ce moment-là, donc j'ai 16 ans, 17 ans, je suis censé faire des études après. Je rencontre une personne qui me dit « tu sais que tu n'es pas obligé de faire des études si tu es déjà en train de bosser ». Je passe très très vite cette histoire, j'ai déjà raconté ça à d'autres, vous pouvez voir des conférences sur Internet là-dessus. Et donc je quitte l'école à 18 ans en étant journaliste, en ayant déjà écrit un livre et en rejoignant un groupe de presse donc à plein temps. Un an après, je crée mon entreprise, j'ai 19 ans, une start-up comme on dit, mais on disait pas ça à l'époque, c'était en 1997. Mes clients c'était Microsoft, France Télécom, Société Générale, Orange à 19 ans. Donc, ce n'est pas le sujet de la conférence là, mais en gros, j'avais confiance en moi. Ce n'était pas de l'arrogance, mais c'était de la confiance. Et effectivement, j'arrivais à signer des contrats avec des énormes entreprises mondiales et qui me faisaient confiance malgré ma jeunesse, malgré ce qu'on pouvait imaginer et qui faisaient confiance à mon expertise. En 2000, j'avais 40 salariés. En 2004, j'ai vendu ma société et mon appartement le même jour. Je me suis marié en 2002. Et j'ai vendu ma société et mon appartement le même jour. Baruch HaShem, comme on dit, une coïncidence. Et avec ma femme, on a décidé, on avait deux enfants à l'époque, on a décidé, deux enfants et demi, il y en avait un qui était en train d'arriver. On a toujours le demi, toujours au milieu. Et on a décidé en l'espace d'une soirée de partir vivre en Israël. On n'a pas contacté l'agent juif, on n'a contacté personne, on a été prendre un billet sur Internet. Un billet d'avion et on a commandé un cadre pour amener des affaires. On a été chercher une maison. On s'est installé à Ranana au départ pendant 3 ans. Et après avoir fait pas mal de choses, monté d'autres entreprises à Ranana, j'ai étudié la première année, j'ai étudié à mi-temps. J'ai étudié à mi-temps, c'était quand même 6-7 heures par jour quand même, donc c'est pas vraiment du mi-temps. Après Google a voulu me recruter, enfin a voulu me racheter mon entreprise, une des entreprises que j'ai lancée après, pour que je devienne l'un des co-dirigeants de Google Haifa. Et à ce moment-là, le deal s'est pas fait, et à ce moment-là, en fait, on a profité pour partir à Bnei Brak, s'installer à Bnei Brak et vivre avec les gens que vous côtoyez, les Gabriel et Rachamim et tous les gens que vous croisez régulièrement. À ce moment-là, certains disent que j'ai une double vie, une triple vie, une quadruple vie, c'est-à-dire à la fois quelqu'un qui étudie régulièrement, donc j'étudie depuis 4h30 du matin, chaque matin, je finis à peu près vers 11h la semaine ou vers midi et demi le dimanche. Et là, sur la route, quand je venais, j'étais en train d'étudier dans la voiture avec ma chavruta, etc. Donc ça, c'est ma vie de Limoud. Et j'ai ma vie d'homme d'affaires, puisqu'aujourd'hui, enfin, depuis l'année 2010, je suis devenu investisseur. Et en fait, j'ai cofondé avec Xavier Niel, le fondateur de Free, un fonds d'investissement qui s'appelle Kima Ventures. Et on a été le fonds d'investissement le plus actif au monde, puisqu'en fait, j'ai investi dans 360 sociétés dans 26 pays. Au début, c'était une société par semaine. Et ça, je faisais tout seul de mes braques, d'accord? Pas d'avocat, rien, pas d'assistant, etc. Et donc ça, je faisais ça de mes braques. Tout en continuant à étudier le matin et l'après-midi, je parlais avec San Francisco, l'Inde, l'Australie. J'ai deux boîtes au Pakistan, etc. Et donc voilà, on a investi dans 360 sociétés dans 26 pays. En 2015, on s'est séparés. Je suis toujours actionnaire avec lui des 360 sociétés. Lui, il continue en fait d'investir beaucoup dans de nouvelles entreprises. Et moi, en fait, je gère maintenant, enfin, je suis conseil pour des grandes fortunes encore plus grosses que Xavier Niel. Et je suis conseil de la deuxième fortune de Russie. On fait des investissements entre 50 et 500 millions de dollars chacun, juste pour vous donner un peu les montants, qui sont un peu dingues pour moi, hein. Moi, je regarde ça un peu de l'extérieur en disant HM m'envoie des gens autour de moi et plein de coïncidences, rencontres, etc. Et voilà, donc je conseille l'un des plus grands groupes français, que je ne peux pas citer parce que j'enregistre ce que je suis en train de dire, un grand groupe français, un des plus grands groupes français, un grand groupe de télécom qui s'appelle Vimpelcom, qui détient 12 opérateurs mobiles. Et donc voilà, conseil des familles, des investisseurs dans leurs investissements high-tech. L'année dernière, on a closé 4-5 investissements. Entre 2 millions et 200 millions de dollars chacun. Voilà. Donc, pour vous donner un peu le. Donc, ça, voilà, ça, c'est mon background, c'est ce que je fais, ma vie en fait. Ce qui est intéressant dans ma vie, c'est que finalement, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer, quand j'étais en terminale, une personne qui s'appelle Jean Guetta, qui vit à Yerushalayim aujourd'hui, qui vivait à Boulogne et ensuite à Londres et est venu à Yerushalayim, qui était un homme d'affaires, qui avait fondé une entreprise qui s'appelait Sahari. Sahari, vous ne connaissez pas aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, ça s'appelle Sage. En France, les logiciels de comptabilité Sage ont racheté en fait l'entreprise Sahari de ce monsieur Jean Guetta. Et en fait, c'est une personne que j'ai rencontrée qui était froum, qui étudiait, qui était chômer Shabbat, chômer Kashrou, chômer absolument tout, et qui était en fait un homme d'affaires normal. Et moi, en fait, comme beaucoup d'entre vous, et beaucoup enfin, comme la plupart des Juifs, un peu malheureusement dans le monde aujourd'hui, on pense qu'il y a une incompatibilité en fait avec le monde des affaires et finalement son judaïsme. En fait, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon mentor et mon associé pour mes premières boîtes, qui m'a montré que c'était effectivement complètement possible d'être un juif, être fier de son judaïsme et à côté effectivement de réussir dans les affaires, enfin d'essayer de réussir. Parce que le but, c'est pas de réussir, au moins on essaie. C'est pas nous qui décidons. On va en parler de ça. Voilà, donc ça c'est l'exemple. Et donc après, effectivement, au fur et à mesure, quand je suis rentré en quittant l'école juive où on étudiait un peu de Torah tous les jours, où je suis rentré dans le monde des affaires, où je suis donc journaliste, j'avais des collègues non juifs, quand j'avais ma propre entreprise, etc. Bah en fait, j'ai ressenti un manque de Torah, un manque de Limoud, et donc j'ai commencé en fait à être un peu un juif errant. Donc en fait, j'allais de synagogue en synagogue, essayer de trouver les rabbanim qui me plaisent. Je savais qu'il me manquait quelque chose et en fait j'allais voir des gens, j'ai assisté à leurs cours, j'ai dit non, ça me va pas, je passe à un autre, non, ça me va pas, non, ça me va pas, etc. Et en fait, ça c'est une démarche qui est très très importante puisqu'en fait dans la Torah, dans le Limoud, on dit qu'il y a Shivim Panim la Torah, 70 facettes à la Torah. D'accord? C'est quoi qui est 70 facettes à la Torah? C'est-à-dire que la Torah c'est effectivement un texte, mais vous avez 70 manières de l'appréhender. Donc en fait, vous pouvez vous retrouver à un cours, vous voyez un rav qui vous parle longtemps de sujets avec une expertise énorme, et vous pouvez dire, mais j'accroche absolument pas à ça. Ça m'intéresse pas. J'accroche pas, ça me transforme pas. Et moi, personnellement, je voulais pas me retrouver à dire, j'étudie pour étudier. Mon but, c'était que, voilà, j'essaye d'évoluer et de comprendre les choses, d'avoir des gens, des rabbinis qui savent répondre à mes questions. Et voilà, ça a pris à peu près un an comme ça, avant que je trouve les gens qui ont finalement, après, transformé ma vie, m'ont fait évoluer. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'était juste un cours, hein. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est effectivement comment est-ce qu'on appréhende le monde des affaires, le monde du travail, quand on est un juif. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire finalement ce monde-là ? Est-ce que effectivement, donc je vous l'ai dit, est-ce que moi j'ai une triple, quadruple vie ? Ma triple vie, c'est ma famille, mon Limoud et mon travail. Est-ce que ce sont des vies différentes ? Ou est-ce qu'au final, tout ça, c'est pas une seule chose ? Il faut savoir, enfin, vous le savez si vous étudiez un peu, puisque vous faites partie du programme Neshama, il y a dans la Torah, il y a deux types de mitzvot, d'accord ? Il y a ce qu'on appelle les mitzvot ben Adam l'amakom, d'accord ? Les mitzvot en relation avec Hachem, avec Dieu, et ben Adam l'achavero, donc avec relation avec son prochain. On a très souvent l'impression que dire ben Adam l'achavero, c'est quoi ? C'est je ne vais pas voler quelqu'un, je ne vais pas lui prendre dans sa poche quelque chose, je ne vais pas le taper, etc. Je ne vais pas lui dire du mal, je ne vais pas lui dire du lachana. On va dire, des fois, on peut penser que c'est assez simple. Et au final, on se rend compte quand on étudie la Torah que finalement, la Torah est vraiment divisée en deux. C'est-à-dire divisée, pas physiquement, mais en tout cas, il y a vraiment deux types de lois qui sont très très nombreuses. À la fois donc, sur les mitzvot de Ben Adam Lamakom, la Kashrut, Shabbat, Hanouka, bon, Hanouka, c'est pas dans la Torah, c'est des Rabbanan, etc. Mais en tout cas, tout ce qu'on voit aujourd'hui dans notre vie de juif, et qu'on dit c'est ça notre judaïsme, c'est aller à la synagogue, faire sa prière, mettre cette filine, la Kashrut, etc., etc. Mais d'un autre côté, on se rend compte que la Torah est remplie de sujets qui ne concernent pas ça. Alors on pourrait les voir en disant, bon, c'est des anecdotes de la Torah, et nous en parlons en passant d'autres choses, mais au final, les autres sujets, c'est quoi ? Ce sont effectivement des lois de relations avec son prochain, et ce sont des relations de lois très souvent commerciales. Ce sont des relations qui peuvent être, effectivement, comment est-ce qu'on paye son employé, à quel moment, jusqu'à quand on a le droit de lui payer sa paye, à quel moment on doit prêter, à quel moment on n'est pas obligé de prêter, etc., etc. En gros, on va revenir tout à l'heure sur quels sont ces exemples-là, mais au final, la Torah est remplie de plein d'alachot business. Et finalement, je vais même vous dire, c'est que la parachat Yitro et la parachat, vous avez les 10 commandements, d'accord ? Et immédiatement après la parachat Yitro, suit la parachat Mishpatim. Alors on pourrait dire, après la parachat Yitro, donc vous imaginez, Moshe Rabbeinu descend, il a parlé à Dieu pendant 40 jours, il a reçu la Torah, il descend, il arrive maintenant. De quoi il va parler ? Il va parler de comment bien mettre cette filine, comment prier avec Kavana, comment bien faire Shabbat, etc. Et non, pas du tout. Il ne parle pas de ça. D'accord ? Il y a les 10 commandements que vous connaissez. Mais il ne parle pas de ça en longueur. Il passe immédiatement par Parashat Mishpatim. Où là, on parle, si ton bœuf a encorné, si ta vache a encorné la vache de l'autre, ou si tu as causé un dommage à quelqu'un, si tu lui as donné un coup, voilà ce qui va se passer, etc., etc. Immédiatement, donc Moshe Rabbeinu, vous imaginez, avec la lumière, on disait qu'il avait la face rayonnante, il arrive, il descend sur terre, et il dit, regardez, je vais vous parler maintenant en cours de Torah, on va parler, il rote de monétaire, des sujets qui concernent l'argent, d'accord ? Immédiatement. C'est quand même assez étonnant quand on voit ça, parce qu'en fait, on peut avoir l'impression qu'effectivement, comme j'ai expliqué, la Torah va aller nous focaliser sur notre relation avec Dieu, mais elle démarre immédiatement avec nos relations avec les hommes. On est à côté du Kotel, donc quand il y avait le Beth Amikdash, il y aura cet après-midi, Mezrat Hashem. Et quand il y avait le Beth Amikdash, alors on voit quand on va au Kotel, on dit voilà, c'était là où il y avait le Kodesh à Kodashim, d'accord ? Il y avait le Kohen Gadol qui venait prier à Dieu, il y avait le Aaron à Kodesh, les tables de la loi. Et donc, quand on prie devant le Kotel, très très souvent, on se dit, voilà, je ressens la Shrina, je ressens Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça, j'ai besoin de ça, j'ai un problème, les maladies, etc. Ce qu'on oublie, c'est qu'au Beth Amikdash, collé au Beth Amikdash, il y avait le Sanhedrin. Il y avait un tribunal qui allait gérer, à la fois effectivement, certaines fois des sujets de kashrut et de psoul de korbanot, c'est-à-dire que quand il y avait un Cohen avait un problème avec une bête en disant est-ce que j'ai le droit effectivement de lui faire le korban ou pas, ils allaient demander au Sanhedrin, mais passaient énormément de temps à gérer même des conflits financiers, des conflits entre gens, d'accord ? Et des conflits, je fais une parenthèse, un conflit entre personnes, ce n'est pas obligatoirement deux personnes qui ne s'aiment pas et qui ont un vrai affrontement entre eux. C'est, il est arrivé quelque chose, on ne sait pas quoi faire. on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment, maintenant, qui a raison, qui a tort, etc. On a chacun notre point de vue, nos deux points de vue sont importants, on veut savoir maintenant ce que nous dit la Torah. Et finalement, dans ce Beth Amikdash, au centre du monde, l'endroit vers lequel on se tourne pour prier tous les jours, il y a un tribunal. Vous imaginez, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas les Abdil dans une église qui mettent le tribunal à l'intérieur de l'église. Ou dans n'importe quel endroit religieux, dans les mosquées ou les choses comme ça, il n'y a pas ce genre de relation, effectivement, avec la justice. Mais en fait, la justice, la droiture, le fait de faire ce qui est juste, ce qui est vrai, fait complètement partie intégrante du judaïsme. C'est ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est à la fois d'avoir une justice entre les hommes et à la fois avoir une justice entre eux. Vis-à-vis d'Hachem, enfin avoir une relation très très forte avec Hachem. On a dans la Gemara, comme certains d'entre vous le savent, on a des centaines et des centaines et des centaines de pages qui traitent de ces sujets dont je vous parle, d'accord ? Qui traitent des sujets qui sont purement des sujets d'affaires, qui sont des sujets de vol, qui sont des sujets de comme j'ai dit, de relations avec ses employés, etc., etc. On a des centaines de pages qui parlent de ça. Dans le Shulchan Aruch, on a énormément d'alachot sur ces sujets-là. Et il y a des milliers de livres d'acharonim qui vont parler aussi de ces sujets-là. Il faut savoir qu'après la destruction du Beth Amikdash, donc le peuple juif a été réparti en galoute, c'est réparti partout. Et il faut savoir que la relation qu'avaient les différentes communautés avec les rabbanim, il n'y avait pas des grands rabbanim partout, c'était très 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 souvent des relations, en fait des lettres, de conflits financiers. Les gens, vous voyez, on a retrouvé dans la Gniza du Caire, donc je ne sais pas si vous connaissez le concept de la Gniza du Caire, donc vous connaissez le concept de Gniza, vous savez ce que c'est une Gniza? Alors, Gniza, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand vous avez un texte de Torah, vous n'avez pas le droit de le jeter. D'accord? Vous n'avez pas le droit de le jeter. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le mettre à des endroits particuliers qui s'appellent des Gnizotes. Et alors, vous avez des endroits dans les villes, mais après, on prend tous ces livrets Torah et on va les enterrer sous terre. Donc, les livrets Torah, les vieux livres dont on n'a pas plus besoin ou qui sont déchirés, enfin, on ne va pas rentrer dans les Gniza, mais en tout cas, on a retrouvé maintenant au Caire, enfin, il y a quelques dizaines d'années, on a retrouvé au Caire une énorme cave avec énormément de textes, de questions et réponses sur des sujets purement financiers. Alors, par exemple, c'est, voilà, je suis marchand au Maroc, j'ai donné à un transporteur ma marchandise, un capitaine de navire ma marchandise pour qu'il aille la livrer à truc, le bateau a coulé, qui est responsable? D'accord? Ce genre d'exemple. Là, je vous donne l'exemple simple, mais les questions en général sont extrêmement pointues. Et en fait, ces textes-là sont juste gigantesques. Et en fait, le monde des affaires des Juifs, à l'époque, était complètement, avait en permanence la couche de « on va demander au Rav quoi faire ». En permanence. Aujourd'hui, on dit « non, le Rav, il comprend rien, il n'a jamais fait de business, il ne connaît pas le monde moderne, etc. etc. » Donc, on ne pose pas ces questions. On ne va pas demander à un Rav « qu'est-ce que je dois faire dans tel cas ? Qu'est-ce que je dois faire quand mon client me fait comme ça ? Qu'est-ce que je fais ci ?» etc. En général, les gens ne le font pas parce qu'on pense que c'est déconnecté. Mais il faut savoir que toute l'histoire, jusqu'à il y a quelques 200 ans, le temps de la Haskalah, etc., était remplie de liens comme ça, de le monde des affaires demande aux rabbanim de les supporter. C'est pas uniquement faites-moi une bracha, j'attends une réponse d'un client demain, ce qui est aussi très très bien, on peut toujours demander. Mais c'est comment je prends telle et telle décision. Donc nous, en fait, on doit se dire une chose. On a aujourd'hui dans le monde, on a un concept qui est l'éthique dans le monde du business. D'accord ? Le business ethics. Vous allez voir, je ne sais pas si vous étudiez ça à l'université, mais il y a beaucoup, beaucoup d'universités au monde où on parle de ça. Où maintenant, il y a un nouveau sujet qui est la moralité dans le monde du business. Et donc, on va vous apprendre à comment être droit dans le monde des affaires. Et en fait, bon, on va vous donner des bases qui représentent 0,5% de ce que le judaïsme peut vous apporter à ce niveau-là. Nous, on est là. On pourrait se dire, regardez, moi je sais exactement ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, je ne vole pas, je ne triche pas, je ne mens pas, etc., etc. Donc je suis quelqu'un de droit. Alors qu'en fait, finalement, quand on est juif, on ne doit jamais dire je sais déjà. Jamais, jamais, jamais. J'ai eu une discussion hier avec quelqu'un, par exemple. Vous savez qu'il y a une nouvelle loi en France, je vous avertis d'ailleurs, qui est une nouvelle loi sur le don d'organes. Voilà, vous avez entendu parler. Voilà, il faut faire en sorte à ce que les Français refusent de se faire prélever des organes. Est-ce qu'on a le droit organes, le prélèvement, truc, c'est un autre sujet. C'est un sujet complexe, c'est très très intéressant. Mais en tout cas, il y a un sujet sur le droit d'organes. Et bon, j'ai parlé avec une femme que je connais bien, qui a commencé à me dire, voilà mon point de vue, c'est ça, 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 ça. Une femme juive. Je lui dis, mais ton point de vue, il ne vaut absolument rien, parce que tu as besoin, pour analyser ce cas-là, tu as besoin de savoir ce qu'est la vie, selon la Torah, selon Dieu. Il y a Dieu qui sait ce qu'est la vie ou ce qu'est pas la vie. Tu as besoin de voir c'est quoi de dire je sauve la vie d'une autre personne. Tu as besoin de comprendre plein, plein de paramètres. Et donc, tu ne peux pas analyser une situation avec ton cœur. Tu peux pas analyser avec ton cœur. Tu peux rajouter ton cœur. Tu peux toujours dire, voilà, moi, j'aimerais bien que ça soit ça, le résultat, qu'il soit qu'on me permette de donner mes organes. De cette personne-là, elle disait, moi, je veux donner, je veux sauver la vie des gens. À quoi ça sert? Mon corps, il sert plus à rien. Mais on peut garder ça en tête. Mais au final, on apprend ce qui est la vérité. Et la vérité, c'est ce qu'il y a dans la Torah, c'est ce qui est dans les poskim, dans la Gemara, dans le Shema, etc. Et à ce moment-là, à partir de ça, effectivement, on va aller prendre une décision. Ah, maintenant, je comprends que quand mon cœur bat et que ma tête... Parce qu'en fait, par exemple, pour les grèves de cœur, c'est quoi le sujet? C'est qu'en fait, il y a un arrêt cérébral, d'accord? Les gens meurent par un arrêt cérébral, mais le cœur continue à battre. Et dans le monde moderne, on dit que la personne est morte, alors que le cœur bat, d'accord? Et donc là, on lui prend son cœur et on met le cœur chez quelqu'un d'autre, d'accord? Bah, là, quand on commence à étudier, on dit, bah non, quelqu'un qui a le cœur qui bat, bah finalement, bah, c'est quelqu'un de vivant. C'est un exemple tout simple, mais ce sont des exemples qui montrent qu'au final, on ne peut pas analyser les choses sans comprendre la Torah. Et pourquoi on nous demande en permanence d'étudier? C'est tous les jours, dans le schéma, on répète qu'on doit étudier la Torah tous les jours, et en permanence, et on doit se souvenir, et on doit étudier, et on doit étudier. Pourquoi on nous demande ça? C'est pour aller nous lisser notre esprit, et pour aller nous faire comprendre des concepts qu'on ne pourrait pas comprendre tout seul. Et dans le monde des affaires, effectivement, ben, on a en permanence ce problème. Par exemple, il y a le problème de dire, ben, dans le monde des affaires, tout le monde ment. Tout le monde ment. Je suis un commercial, on sait très bien, et même la personne en face sait très bien que de temps en temps, je vais pipoter. C'est à elle de vérifier. Ou alors, par exemple, dans la vraie loi commerciale, en tout cas européenne, aux États-Unis, je pense que c'est pareil. Par exemple, quand vous achetez un produit chez quelqu'un, dans un magasin, il peut vous le vendre au prix qu'il veut. C'est à vous, client, d'aller vérifier que le prix est le bon. Il vous l'a vendu très très cher, alors qu'il vous a vendu un truc 100$ alors qu'il en vaut 20. Tant pis pour vous, il a gagné beaucoup d'argent, bravo, bien joué. D'accord? Dans la Torah, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a un concept de honaa, fixation des prix, d'accord? Qui est très 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 précis. C'est un sujet que j'ai étudié pendant un an, juste pour vous dire un peu l'étendue de la chose. Et la fixation des prix, c'est quelque chose où effectivement, je ne dois pas tromper l'autre. Si finalement il y a un prix, je dois vendre cette personne au bon prix. Alors quoi, on doit tous vendre au même prix? Alors voilà, je ne rentre pas dans les détails, c'est un sujet, il s'appelle Onara. Et donc, à ce moment-là, on voit que la Torah n'a pas la même vision des choses. Nous, on ne dit pas, bah non, le client, il n'avait qu'à se renseigner. On dit non, 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 non. Nous, on est là pour être des gens droits. On est là pour vendre quelque chose au bon prix. Donc, on doit faire très attention à quel prix auquel on vend. Et ça, personnellement, quand j'ai commencé dans le monde des affaires, je ne savais pas ça. Je ne savais pas comment on peut le savoir, puisque le monde ne fonctionne pas comme ça. Et pourtant, ce sont des halakhot qui sont précises. Donc, comme j'ai expliqué, il faut faire très, très attention. Finalement, quand on est dans ce monde-là, dans ce monde du business, où on dit, voilà comment fonctionne le marché, voilà, on regarde les autres comment ils font. Et des fois, les autres, c'est quelqu'un avec une barbe et une kippa. On dit, ah, regarde, il appelle en se faisant passer pour les sapeurs-pompiers. Ça a l'air donc c'est permis. J'ai déjà entendu cette phrase, hein, d'accord? Donc c'est permis, il a une kippa, il a une barbe, d'accord? Et là, non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. On est là, on doit étudier toutes ces choses-là. Et donc, ce que j'explique, en fait, finalement, c'est que quand on va à la synagogue, on ressent qu'on est dans un endroit en train de faire ce qu'on appelle sa avodat Hashem, son service divin, d'accord? Quand vous allez être Shabbat en train de manger, en train de chanter, vous allez dire, voilà, là, je suis en train de faire mon juif, d'accord? Je suis juif maintenant, à ce moment-là. J'exprime mon judaïsme. Moi, ce que je suis en train de vous dire là, maintenant, c'est que finalement, les doubles vies ou triples vies dont je vous ai parlé tout à l'heure ne sont absolument pas plusieurs vies. C'est une seule vie. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un moment où je vais étudier, et je vais étudier pour comprendre, pour arriver à peaufiner mon esprit, mais finalement, mon judaïsme, il démarre à la sortie de la synagogue. Il démarre au moment où je vais commencer à être confronté à des épreuves dans le monde et à plein de challenges qui est là où je vais devoir prendre des décisions. Il y a la décision en France, moi je suis très proche de l'UEJF par exemple, ou de plein d'étudiants en France qui ont tous ce problème de les examens Shabbat ou des choses comme ça. D'accord ? Certains vont dire, bah oui, évidemment, on ne fait pas Shabbat. Non, on va pas Shabbat. Alors, on va pas aller faire des examens Shabbat, c'est pas possible. Certains vont dire, ah, mais bon, une fois, c'est pas grave. De toute façon, c'est mon métier, je donnerai de la tzedaka à la fin. D'accord ? On rigole, mais c'est pas comme ça. On rigole pas parce que c'est très très dur, ce sont des décisions dures. Mais finalement, dans notre vie, on est dans un mode, comme ça j'exprime la chose, on est dans un énorme jeu vidéo. On est dans un monde où on a en permanence des épreuves. Une épreuve, ok, maintenant j'ai rendez-vous avec le client, monsieur Dupont. Comment je vais lui parler? Et donc là, je vais dire, ok, il faut faire très attention à ce que je dise bien la vérité, que je décrive bien le produit. Il faut faire très attention à ce que le prix soit le bon. Il faut faire très attention à ci, ça, 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 ça. Et là, je sors, je dis, ouais, j'ai passé le niveau. Comme un jeu vidéo, donc. J'ai passé le niveau Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, je sors de chez Monsieur Dupont. Je fais, ok, j'ai réussi, j'ai été un bon juif à ce moment-là. Paf, prochain rendez-vous, j'ai maintenant une réunion avec mon employé qui va me demander une augmentation. Je dois maintenant faire les fiches de paye de mon employé. Paf, alors je dis, oh, c'est pas grave, ma trésorerie est tendue, il peut attendre 3-4 jours l'employé. Et là, vous voyez, vous connaissez les lois de la Torah, vous savez que l'otalin peula tsachir, vous ne pouvez pas retarder le salaire d'un de vos employés. Et là, vous allez dire, ah non, 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 regarde, là, j'ai des preuves, je dois payer mon employé, je vais vite, 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 vite payer mon employé pour ne pas enfreindre cette mitzvah. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant pour le payer des employés, c'est qu'il y a quatre mitzvot, il y a quatre lavim, il y a quatre lotasé, donc il y a quatre interdictions, et il y a une mitzvah assez. C'est-à-dire que quand on a un salarié et qu'on le paye à temps, on fait une mitzvah. D'accord ? C'est pas uniquement on fait une avera quand on l'a pas fait, mais on fait une mitzvah qu'on paye. Et d'ailleurs, je crois que c'est le Khatam Sofer qui dit qu'il recommande aux gens d'avoir au moins une personne à payer, par exemple une babysitter, une femme de ménage, n'importe quoi, pour pouvoir appliquer et pouvoir pratiquer cette mitzvah de payer son salarié à temps. D'accord ? Donc en fait, on va se retrouver en fait, dans notre monde des affaires, on va se retrouver par exemple en entretien. On a un entretien d'embauche. Alors, on sait très bien que son diplôme, on ne l'a pas passé, qu'on a copié sur le contrôle d'à côté. On sait très bien que finalement, on ne connaît pas trop le sujet dont il a besoin, enfin, qui me demande, etc. Mais on va aller dire, oui, 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 bien sûr que je connais, parce qu'on a lu trois trucs sur Wikipédia 3 minutes avant. D'accord ? Et donc, on va dire en entretien d'embauche, on va dire, on peut mentir, on peut tricher. Et je peux vous dire, moi, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretiens d'embauche. Enfin, j'étais le recruteur. Beaucoup. Et je peux vous dire que c'est le standard de tricher, de mentir. C'est le standard de dire, oui, alors j'ai passé 4 ans dans telle entreprise et 3 ans là et 2 ans là. Je fais, mais pourquoi vous avez 40 ans? Vous avez 27 ans, comment vous avez pu faire autant de trucs? mais voilà, c'est le genre de choses. Et à chaque fois, alors évidemment, c'est un peu un jeu, parce que comme les gens savent que ça fonctionne comme ça, alors c'est un peu apprendre à dire, l'employeur, il a qu'à faire attention, faire ses vérifications, etc. Mais nous, comme je vous l'ai expliqué, c'est pour ça que le sujet de la fixation des prix est intéressant, on n'est pas dans un mode de dire, allez, on va tricher, c'est à l'autre de se débrouiller. Non, 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 on est dans un mode, c'est comment moi je suis le plus droit possible dans telle situation, dans n'importe quelle situation. Donc en fait, notre vie est en permanence rempli de petites épreuves, de grandes et petites épreuves. Donc il y a la grande épreuve de quelqu'un qui est chômeur Shabbat depuis quelques mois et qui maintenant a son examen le Shabbat et qui doit prendre une grande décision. Ça, c'est des gens, moi je reçois des mails, comme je l'ai dit régulièrement, de gens que je supporte et que j'aide. Parce que même psychologiquement, après l'examen, ils se sentent très très mal. Ils ont très très peur d'avoir fait une grande erreur. Et finalement, Dieu a envoyé uniquement, nous a envoyé sur terre, uniquement pour nous faire passer ces épreuves-là et voir en fait quelles sont les décisions qu'on va passer. Ce qui est intéressant de voir, c'est que notre ancêtre, au peuple juif, c'est pas Abraham, parce qu'Abraham c'est aussi l'ancêtre de Ishmaël et de Esav, c'est Yaakov, d'accord? Yaakov, quand on lit son histoire de Yaakov, donc Yaakov, effectivement, on dit qu'il a passé sa vie dans les tentes, enfin son enfance et son adolescence dans les tentes. Après, il a volé la bénédiction à Yitzhak, ça c'est un sujet où on en parle, mais c'est pas le sujet. A priori, il a volé, mais il n'a pas volé. Et après, Yaakov va chez Lavan pour aller chercher sa femme, d'accord ? Et qui est sa cousine, d'accord ? Femme cousine. Et donc, il va là-bas, et donc il va aller chez Lavan, et là, il veut se marier avec Rachel. Lavan lui dit, tu vas travailler pendant 7 ans. Après 7 ans, il a travaillé, et finalement, il a le mariage se passe, et paf, il se réveille le lendemain matin, c'est Léa qui est avec lui. Finalement, il demande à Lavan de se remarier avec Rachel aussi, d'accord, on pouvait se marier plusieurs à l'époque, aujourd'hui, une suffit. Et donc Yaakov en fait va passer maintenant du temps avec quelqu'un qui s'appelle Lavan, d'accord, qui est vu dans la Gemara, dans le Talmud, comme l'une des personnes les plus malines et les plus malicieuses ou les plus perverses dans le
rotor.
Voilà, rotor, voilà, très bien, rotor, on va utiliser ça. Rotor dans la relation patron-salarié, disons. D'accord ? C'est quelqu'un, on dit, Yaakov le dit dans les psukim, il dit, ben, il a changé le contrat, Lavan a changé le contrat de Yaakov des centaines de fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il voyait que Yaakov sortait avec un avantage, avec un contrat, il lui changeait le contrat. Et il a essayé en permanence d'essayer de l'avoir. Ben, la preuve, il a fait un seul coup avec Rachel. Et quand avec Léa, il lui dit, mais pourquoi tu m'as fait ça ? On avait dit Rachel. Lavan a toujours une bonne raison. Il va dire, on ne marie pas l'aîné, la petite avant l'aîné. Léa, c'est l'aîné, donc je te marie l'aîné. Il avait une bonne raison. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Lavan s'appelle Lavan. Il s'appelle Blanc. D'accord ? Quand même intéressant, il faut toujours voir l'ensemble des petits détails dans la Torah. Et Lavan, pourquoi il s'appelle Blanc ? Alors qu'on dit que c'est effectivement la personne la plus rotor. C'est qu'en général, quand quelqu'un fait des sales coups, il est toujours blanc dans son cœur. Il pense toujours avoir raison. Mais c'est normal que je lui fais cas parce qu'il gagne trop d'argent. C'est normal que je le vole parce qu'il ne me paye pas assez. C'est normal ça. Et on est toujours blanc. Et Lavan, il était... Donc c'est la personne, comme je l'ai dit ça, il s'appelle Blanc. Et c'est lui qui a été celui qui a été en conflit avec Yaakov. Et Yaakov, en sortant des 20 années qu'il a passées après aux côtés de Lavan, qu'est-ce qu'il a fait finalement pendant ces 20 années ? Il a réussi le niveau Lavan, comme j'expliquais avec l'image des jeux vidéo. Il a réussi à passer l'épreuve de dire, lui, Yaakov, est resté 100% honnête. Évidemment, après, il a été malin. Il a réussi à faire des choses qui convenaient au contrat. Il a réussi à améliorer ses profits. D'accord ? Mais il a été complètement droit et honnête. Et d'ailleurs, à la fin, Lavan, il n'a absolument rien à lui reprocher. La seule chose qu'il lui reproche, et c'est pour ça que Lavan le poursuit, c'est que Rachel lui avait volé ses statuettes, ses idoles. Mais à Yaakov, il n'a rien à lui dire. Yaakov a été droit pendant 100% de cette vie-là. Et donc Yaakov, la grosse partie de la vie de Yaakov, a été finalement une épreuve, qui est une épreuve uniquement de relation, de vérité dans son monde des affaires. D'accord ? Et Yaakov, c'est lui notre ancêtre. C'est lui qu'on appelle Israël. Nous, on sommes les Bnei Israël. Israël, c'est Yachar El, qui sont droits devant Dieu. D'accord ? On est droit devant Dieu, et c'est ça, en fait, ça a été l'une des épreuves principales de Yaakov. Après, il y a eu Yosef, et il y a eu Binyamin, mais en tout cas, ça a été l'épreuve principale. Donc, il y a une Gemara qui dit comme ça. Quand on va arriver là-haut, d'accord, on va se retrouver devant le tribunal, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va nous dire? On va nous demander, on va nous poser une question. À votre avis, qu'est-ce qu'on va nous dire ?
Est-ce que tu as été toi-même ?
Il y en a qui connaissent. Hein ? L'étude, ouais. Est-ce que tu as attendu le Mashiach, Hadak ? Ouais. Quelle est la première question qu'on pose ? Bon, alors je l'entends, je ne sais pas d'où ça vient. En fait, la première question qu'on pose... C'est pas est-ce que tu as étudié la Torah, c'est pas est-ce que tu as été un bon chômeur Shabbat, C'est pas si tu as été gentil, etc. C'est, voilà, je vous le lis, d'accord ? Amar Rava Becha'ach et Machnissim Adam Ledin. Au moment où, selon Rava, au moment où on fait rentrer un homme au din, au jugement, on va lui demander Nasata Venatata Be'emuna. Est-ce que tu as fait du Masnasa ou Matan, Masa ou Matan, c'est-à-dire du commerce, avec droiture, avec foi ? Je fais exprès de dire les deux mots parce que les deux mots sont deux explications un peu différentes qui se rejoignent. On va en parler. La première question, quand on arrive là-haut, nous on dit, ça y est, j'ai laissé mes affaires, allez, tout mon business, mon truc, ça me prend la tête, ça y est, j'arrive au paradis, ça va être beau. Et là, on te dit, alors, c'était comment le business ? Première question. Les questions qu'on va poser après, je vous l'ai dit, et on va en parler un tout petit peu, ça va être effectivement Kavata et Tim. Est-ce que tu as effectivement fixé des heures? Non, la première, oui, Kavata et Tim, la Torah. Est-ce que tu as fixé des heures d'études pour la Torah? Asakta et Pierre Verivia, est-ce que tu as eu des enfants? Sipita et Yushua, attends-tu le Mashiach? Pipalta et Chorma, ça c'est sujet de limo, etc. Donc la première question, c'est est-ce que tu as fait bien ton business? Tes relations d'affaires? Et tes relations d'affaires, faut savoir qu'à chaque fois que je prononce le mot business ici, c'est même quand vous allez chez l'épicier, d'accord, et que vous allez acheter quelque chose, ça s'appelle une relation d'affaires, d'accord, ça s'appelle business. Je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, c'est quand il y a une relation, disons, monétaire. Et là, on te dit, est-ce que tu l'avais avec Emouna? Donc maintenant, on a deux manières de traduire ce Emouna. Emouna, on va dire, est-ce que tu l'as fait avec droiture? Est-ce que tu as été effectivement fait ton commerce en étant droit? Est-ce que tu l'as fait avec foi qu'Hachem dirige le monde? Finalement, en fait, ces deux traductions possibles sont en fait une seule traduction. C'est-à-dire qu'en fait, si on a confiance qu'Hachem dirige le monde, mais quand il dirige, je ne sais pas à quel point on vous a enseigné ces sujets-là, mais Hachem contrôle absolument tout. Et on va en parler tout à l'heure, on a rien que marqué ça. Hachem contrôle absolument tout ce qui se passe. D'accord? À part les petites décisions dont je vous ai parlé, de choisir le bien ou le mal. Enfin, on va voir tout à l'heure. Mais si j'ai confiance en Dieu, je sais que c'est lui qui apporte la parnassa. Vous savez qu'on lit le Birkat Amazon, d'accord? On lit le Birkat Amazon, on dit « Merci Dieu de nous avoir donné le manger, merci Dieu de nous avoir donné ci, etc. » Normalement, c'est hypocrite de dire ça. On dit « Mais non, c'est pas Dieu qui m'a donné. J'ai bossé, j'ai travaillé, j'ai signé le contrat, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à l'avoir par-ci, à l'avoir par-là, etc. » On va dire que non. Qu'est-ce qu'elle fait là-dessus là? Pourquoi le Birkat Amazon, à quoi il sert? Vous croyez qu'Hachem a besoin de notre prière là, a besoin qu'on lui dise merci? C'est pas ça le sujet. Le Birkat Amazon, il sert à ancrer en nous tout ce que j'ai fait, toute ma parnassa, tout ce que j'ai gagné, c'est Hachem qui me l'a donné. Et au départ, c'est des mots ce que je vous dis. Et je sais, pour certains d'entre vous, ça va être des mots ce que je suis en train de dire. Mais quand on se met à travailler longtemps, et qu'on a ça en tête, au début, en fait, moi, on m'a dit ça il y a 20 ans, d'accord? On m'a commencé à me parler de ça. Je comprenais pas le truc. Je voyais quand même, je devais faire des efforts pour signer le contrat, etc. Mais au fur et à mesure que j'avance, je fais, c'est incroyable. Des coïncidences, je rencontre ce mec au café. Tiens, ma voiture démarre pas, elle démarre une minute après, et grâce à ça, j'ai rencontré le client qui m'a fait ci, qui m'a fait ça. Plein de choses bizarres. Et là, vous dites, bah, là, le sujet de, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, que quand j'ai fait mon alia, j'ai vendu ma société le matin, la maison l'après-midi. Je veux dire, c'était complètement surréaliste. Bon, ça, c'est trop gros pour être chaud, mais quand on commence à rentrer dans le monde du business, vous allez vous rendre compte que vous ne contrôlez pas grand-chose. Et d'ailleurs, c'est très rigolo. Donc moi, je conseille des grandes fortunes. Et la plupart des grandes fortunes honnêtes d'esprit, quand on lui dit « Mais pourquoi vous êtes aussi riche ?» Il va vous répondre « Parce que j'ai eu de la chance. » Il va vous répondre « J'ai eu de la chance. » Et je peux vous dire, je conseille des gens, je ne les trouve pas intelligents. Pas spécialement, pas bêtes, mais je ne les trouve pas plus intelligents que la moyenne. Mais ils ont eu une chance. Ils ont pris les bonnes décisions à certains moments, ils ont rencontré les bonnes personnes, ils ont eu les bons associés, ils se sont retrouvés au bon endroit, à la bonne époque, à la bonne heure, etc. Ils ont eu de la chance. Et vous allez voir, vous lisez les interviews d'hommes d'affaires. Moi, j'adore faire ça, lire les interviews d'hommes d'affaires. Mais je les lis, en fait, en ayant ce regard-là. Financial Times, regardez, alors j'ai rencontré j'étais en voyage en Thaïlande avec ma femme et j'ai rencontré sur la plage mon nouveau client. Mon truc. C'est que ça. Alors, on va dire, bon, allez, le mec, quand même, il a poussé, il a fait en sorte, c'est lui qui a mis de l'énergie, il était ambitieux, donc c'est lui qui réussit. Vous connaissez le nombre de gens ambitieux qui ne réussissent pas? Vous savez combien il y en a? C'est 99%. 99% des gens qui veulent venir aussi riches que Bill Gates, ben ils ne le sont pas. Ce n'est pas 99, c'est 99. Il y en a un seul en haut. D'accord? Ils ne le sont pas. L'ambition, elle est importante. D'accord? On ne doit pas être quelqu'un qui doit rester recourbé. Mais d'un autre côté, dans le judaïsme, on doit être certain de se dire, de toute façon, c'est Hachem qui va décider. Donc, moi maintenant, j'ai fait mon business. Si je dis, regarde, j'arrive en Israël, on me paye 5 000 shekels par mois, ou je vais bosser dans le Forex, et c'est 30 000, d'accord? Si j'ai confiance en Dieu, c'est pourquoi ça sourit? Il y a des gens qui bossent dans le Forex ici? Vous êtes étudiants, je crois, tous encore. Ah, Chas v'Shalom. Oh, Hachem.
Ils ne le diront pas en public, mais s'ils le font, ils ne le diront pas en public.
Non, moi, j'aimerais me retrouver confronté. J'ai déjà été, hein, mais.
Mais c'était quoi leurs arguments?
À qui?
À les personnes avec qui
cachèrent. Le Forex?
C'est.
Je connais un rabbin qui a dit que c'était permis. Comment il s'appelle? Je ne sais pas. Demande à lui. Alors, j'ai cherché, j'ai remonté toute la chaîne, il n'y a pas. Il n'y a pas de rabbin. Je connais un religieux qui met ses tulines tous les jours, il fait pareil. De toute façon, pardon.
C'est pas fondé du tout, ouais,
De toute façon, tous les arguments qui ne sont contraires à la halakha sont jamais fondés. À la fin, se détruisent tout le temps, d'accord. Mais moi, franchement, je vais même vous dire, si on parle de ce sujet en parenthèse. Moi, quand j'ai appris ça, d'accord, il y a 2-3 ans, j'ai appris que ça se passait comme ça, j'ai dit bon. Peut-être qu'ils ont une manière de lire la Gemara, et il y a une manière dans la Torah de justifier. Ouais, non, il y a une manière de justifier ça. Il rote, je ne vais pas parler, parce que comme on a enregistré et que je risque de le diffuser, donc je ne vais pas parler des détails. Mais bon, il peut y avoir des manières de dire, effectivement, il y a certaines fois, on a le droit de le faire, etc. Donc, j'ai été étudié. Je suis assis avec ma Chavruta. On a étudié ça pendant 6 mois. On a étudié pendant 6 mois les lois de vol. Les lois de vol, les lois de mensonge, les lois de tout ce qui peut rentrer là-dedans. On n'a rien trouvé qui permettait de faire ça. Et au contraire, plus on avance, on voit le Rambam qui dit « Midabar Sheker Tichrak ». Il ramène « Un homme doit vivre avec son cœur et sa bouche et sa tête et son cœur synchronisés. On n'a pas ce que je dis, c'est ce que je pense et ce que j'ai dans le cœur. Pas « je suis en train de penser à un truc ». Le mec, je vais l'arnaquer. Et en même temps, dans la bouche, je suis en train de dire « Monsieur, regardez, je vais vous aider à gagner de l'argent. » Vous voyez? Et ça, le Rambam, il répète. C'est pas que le Rambam, c'est toute la Gemara, c'est tous les Rabbanim, c'est tous les Acharonim, c'est tous les Rishonim. C'est rempli de on est des gens qui devons être droits, complètement fluides avec nous-mêmes.
Mais ce serait quoi la différence entre quelqu'un qui va faire ça à une grande échelle qui a vraiment volé
Ah ouais, ouais, bah c'est aussi grave.
Bah c'est ça qu'on...
Mais justement.
C'est aussi grave qu'un grec qui a un business qu'on l'a donc acheté, mais de temps en temps il moins, alors qu'un qui fait que mentir.
C'est aussi grave. Non, après moi je suis pas le compteur, d'accord. Et c'est pas. Non, mais faut être clair. Non. Après les compteurs, ils sont là-haut. Hachem, il sait qui est grave, ce qui est pas grave. Il voit le cœur des gens, il voit tout. C'est ça. Maintenant, le mec qui vole une fois par an, il vole une fois par an. Il vole une fois par an, d'accord? Il vole un petit montant. Il vole, d'accord? Il triche. Donc après, on ne peut pas dire, il y a uniquement si je fais ça à grande échelle que c'est interdit. Non, c'est si je commence à rentrer dans un modèle où je ne suis pas dans ce modèle dont je vous ai parlé depuis le début, qui est je dois remporter les épreuves d'honnêteté, je dois remporter les épreuves de Yashrut. Nous, Israël, on doit être droit. Bah, à ce moment-là, effectivement, on a plein de moments où on va tomber.
Monsieur, à quoi ça consiste exactement
sur X? Ah, ça, on en reparle à la fin, si vous voulez. Toi, tu veux y bosser?
Non.
Non,
ouais,
je veux
savoir.
On va en parler. Donc, en fait, on a dit, dans ce que je vous ai expliqué, c'est que si on comprend que finalement, sa parnassa vient d'Hachem, vient de Dieu... C'est-à-dire que ce qu'on va gagner vient de Dieu. Et je vous dis, je suis sûr que ce que je vous dis là, ça ne représente pas encore grand-chose pour vous. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte à quel point ce que je dis est vrai. Vous n'en rendez pas compte. Mais pensez à ça quand il va vous arriver des coïncidences. Pensez à ça. Moi, les gens qui vivent autour de moi, juifs et non-juifs, et qui bossent avec moi, à chaque fois ils disent « Incroyable quand même, comment Dieu nous aide !» mais même des non-juifs, soit des chrétiens, soit des athées, etc. Il dit, ah, alors, il y a le athée, il va dire, ah là là, les étoiles nous aident. Les étoiles. Donc, il y a eu un truc. Donc, on doit penser en permanence, Hachem est avec nous. La seule épreuve que l'on a, c'est effectivement notre yashrut. Après, effectivement, il y a Kavata et Timna Torah, c'est la deuxième question. C'est que c'est lié tout ça. C'est que si je n'étudie pas, finalement, comment je vais réussir à être droit? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un passouk dans Tzfania. Donc Tzfania parle de la fin des temps, d'accord, de l'époque du Mashiach. Il écrit comme ça. « Sheirit Israël, lo yaasu avla velo yedaberu chazav ». Traduction, c'est « Les restants d'Israël ne commettront pas de corruption et ne diront pas de fausseté et de mensonge. » Les restants d'Israël. Alors, il y a deux commentateurs qui parlent de ça. Il y a 800 ans, le SMAG, il disait comme ça. Il disait « Nous devons faire très attention à notre manière de vivre et faire du commerce. » Parce que le jour où le Mashiach va venir, les peuples du monde vont nous voir, vont voir cet événement. Et ils vont voir... Ils vont dire, regardez, le peuple juif avait raison, Dieu a choisi le peuple juif, et regarde, ils sont en train maintenant de, entre guillemets, embellir le monde. Je ne vais pas dire diriger le monde, parce que ce n'est pas ce modèle-là. Et donc, ils vont voir ça, ils vont dire, regardez ce peuple juif. Effectivement, ils avaient raison, tout se passe bien. Si maintenant, le peuple juif est un peuple corrompu, si on est des voleurs, si on, je vais pas citer le nom parce que c'est le problème de la Shonara, mais vous connaissez les grands hommes d'affaires dans la finance de New York, etc., qui ont fait plein de bêtises, d'accord? On ne prononce pas de nom, on a dit. Et si c'est ça le peuple juif, si le peuple juif c'est le forex, si le peuple juif c'est ça, etc., la venue du Mashiach, ça sera un Chilul Hashem. Ça sera Hashem, tu es associé à ces pourris, tu es associé à ces menteurs, tu es associé à ces voleurs. Donc c'est ça, Hachem. L'événement de la venue du Mashiach, ça va être un événement où Hachem va resplendir dans le monde, où le peuple juif va resplendir dans le monde. Donc, ce que dit le Smagla, il dit, on doit faire très attention pour que le Mashiach vienne à être des gens droits, sans corruption et sans mensonge. Il y a un autre commentateur, j'ai pas le nom. Qui dit, c'est pas exactement ça, c'est pire que ça. C'est qu'en fait, tous les gens qui ne font pas partie de ce critère-là, tous les juifs qui n'ont pas participé à ce critère-là, vont disparaître avant le Mashiach. C'est-à-dire que les corrompus et les menteurs vont disparaître avant. Donc il va rester ça. Il est obligé de rester ça. Il est obligé de rester un peuple juif qui fait honneur à Dieu. D'accord ? Ok. Quand on est aussi dans le monde des affaires, on a un vrai sujet. Donc, comme j'ai expliqué, le monde des affaires, c'est pas obligatoirement patron. Hein. On peut être employé et n'importe quoi. Ça fait partie du monde des affaires. On a besoin de gagner de l'argent. D'accord? On va se dire, voilà, notre succès va se baser un peu sur l'argent que j'ai gagné. Si je gagne beaucoup, c'est que j'ai réussi. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde. Aujourd'hui, les classements qu'on trouve dans le monde, c'est les classements Forbes, Challenge, etc. Classement des fortunes de France. D'accord ? Classement des fortunes mondiales, etc. C'est comme ça qu'on note un peu les gens. Plus je gagne, plus je réussis. D'ailleurs, plein de gens me disent « Qu'est-ce que tu penses de cette personne qui a réussi ?» Je sais, mais pourquoi elle a réussi ?» Parce que, regarde, elle a une grande marque de vêtements, et ci et ça. Moi, je vais voir sa fiche Wikipédia, il a divorcé deux fois, il a une sale vie, il a été en prison, il a été... Il a réussi. C'est où la réussite ? Il y a uniquement ce qu'il y a dans son portefeuille qui compte pour la réussite. Et en fait, le Rambam rapporte, je dis le Rambam évidemment qui se base sur la Gemara, il rapporte comme ça, il dit « Sarich Adam, sheikaven libo vechol ma'asav kulam leda et Hashem baruchu bilvad » L'homme doit en permanence penser qu'il dirige ses actes envers Dieu, uniquement bilvad. Veillez Shifto, Vekumo, Vediburo. Et il y aura le moment où il s'assit, où il se lève, le moment où il parle. Akol le Umadze Adavar. Donc tout ce qu'il va faire dans sa vie, tous les actes qu'il va faire, vont être là, tournés avec, connectés à Dieu. Ketsad, Sheyatse Veiten, quand il va faire du commerce, ou Yase Melacha, où il va faire un travail pour aller prendre un salaire. L'OIBO, Belibo, Ligbots, Mamon, Bilvan, il ne doit pas uniquement se dire je fais ça pour avoir de l'argent. Et là, il y a cette varim à Elou, Kedeshimsad, varim, Chagouf, Sarir. Il doit se dire je suis en train de travailler. Je vais donc faire ça pour gagner de l'argent. Mais pourquoi j'ai besoin de gagner de l'argent? Parce que j'ai besoin d'acheter à manger, j'ai besoin d'acheter des médicaments, j'ai besoin d'acheter à boire et j'ai besoin d'avoir, donc il y a Shivat Bait, d'avoir une maison et j'ai besoin de me marier et d'avoir une femme ou un mari. Et donc, on a besoin d'argent parce qu'on a une utilité, d'accord? D'avoir besoin d'argent. Et ça, ce pasouk-là, enfin ce passage-là, c'est dans Ilchot Deot, Pereguimel à Rabet, ce passage-là, il va complètement à l'encontre du monde d'aujourd'hui, du monde des affaires. Ce n'est pas comme ça qu'on réfléchit. Aujourd'hui, on ne réfléchit pas en fonction de « voilà pourquoi », en général, hein, je vous dis, hein, il y a bien sûr des gens qui réfléchissent comme ça, « voilà pourquoi je travaille, voilà pourquoi je monte des projets, voilà pourquoi ça. Ben, » c'est au final pour que j'aille manger pour mes enfants et pouvoir vivre, avoir une vie. C'est « non, ben, moi je veux gagner pour être riche, pour pouvoir jeter de l'argent en vacances, pour pouvoir avoir une grosse voiture pour frimer devant mes amis, etc. » Alors, on ne le dit pas comme ça, mais évidemment, on a un objectif de faire de l'argent pour l'argent, qui n'est pas connecté à des besoins réels. Le besoin réel, quand on dit on va être connecté à HM, c'est pas quelque chose de... c'est pas de la méditation et on dit on est connecté à HM. Connecté à HM, c'est quoi? C'est qu'on a un service divin à faire sur Terre, et le service divin, il est assez simple, finalement. On doit rester droit, on doit manger, on doit boire, on doit faire nos brachot, on doit faire notre tefila, on doit faire nos gâchots, etc. Et donc, moi, tout ce que je vais faire va faire que je vais réussir à faire ce service divin. Donc, moi, quand je travaille, moi, aujourd'hui, personnellement, Jérémy, quand je travaille et quand je gagne quelque chose, je suis en train de me dire, tiens, avec ça, mes enfants, je vais pouvoir acheter une maison à mes enfants et mon fils va pouvoir étudier au collège plus longtemps. Ou je vais pouvoir faire ci, ou je vais pouvoir faire ça. Mais c'est quelque chose qui est complètement autour de la famille, de notre système. Ou alors de faire de la zakat, de faire de la philanthropie, etc. On fait notre service divin, on gagne de l'argent pour faire le service divin. Et on ne fait pas ça pour rien. Un jour, j'ai parlé avec un ami qui est actionnaire c'est un des premiers actionnaires de Airbnb, donc au tout début, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça vaut aujourd'hui. Et en gros, c'est quelqu'un qui doit peser aujourd'hui dans les 200 millions, d'accord? Et un jour, je lui ai demandé un service, il me dit « combien tu me payes ?» Mais un truc, mais vraiment, c'est juste qu'il envoie un mail à quelqu'un. Hein. « Combien tu me payes ?» Alors je lui dis « mais dis-moi, qu'est-ce que tu cours après l'argent ? C'est quoi ? Tu cherches quoi ?» Là, tu payes au moins 200 millions, et Airbnb va valoir au moins le double. Donc, disons, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, mais non, moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je veux juste avoir assez d'argent. Enough money, il m'a dit. C'est en anglais, la discussion. Lui est allemand. Enough money. Alors, je lui dis, c'est quoi enough money? Parce que moi, je sais combien il a. Il a déjà vendu une boîte, il était très, très riche, un des plus grands investisseurs dans le monde, etc. Enough money. Alors, il me dit, non, mais les autres, ils exagèrent, etc. Je dis, mais dis-moi, toi, combien? Dis-moi, pour moi, assez d'argent, c'est 500 millions. 500 millions d'euros. Il voulait 500 millions d'euros. Et là, je lui dis, mais attends, tu veux faire quoi avec? T'es divorcé, tes enfants sont en pension, il est à part. Tu as déjà tes maisons, tu as un bateau. Il a vraiment un bateau. Oh, il n'a pas de jet. Il n'a pas de jet, mais il prend des jets. Aujourd'hui, on n'achète plus de jets. Ça se loue. D'accord. J'ai pris une fois un geste, c'était sympathique. Avec Xavier Niel, on a pris. Et donc, j'ai dit, tu as tout déjà. Donc, pourquoi? Et là, il est obligé de me répondre. Il me dit, non, mais en fait, gagner de l'argent, c'est comme manger et boire, c'est sain. Ça permet effectivement d'avoir un but dans la vie. D'accord? Et en fait, les gens pensent comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous parlez à des gens riches, je lui dis, mais j'ai un autre ami comme ça. C'est un entrepreneur français qui vit aux États-Unis et qui aussi a vendu beaucoup de sociétés, qui pèse, je pense, dans les 150 millions, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 150 millions d'euros. C'est-à-dire, vous pouvez dépenser, vous achetez tout le supermarché tous les jours et ça continue, il y en a encore plein. D'accord? Mais c'est... Donc, ce n'est pas dépensable, d'accord? Et un jour, je lui dis, Mais donc, tu as investi dans plein de boîtes, super. Mais pourquoi tu as investi dans plein de boîtes? Alors, il me dit, bah, pour pouvoir les vendre. Un jour, je les vends, je ferai une sortie. Et je fais, avec l'argent, tu feras quoi? Bah, j'investirai dans des boîtes. Et après, je lui dis, mais après, tu vas faire quoi? Bah, je montrerai d'autres boîtes. Et à un moment, je lui dis, mais ça finit quand ton histoire? Il fait, pourquoi tu veux que ça finisse? Je lui dis, mais t'as rien d'autre. C'est-à-dire que c'est ça ta vie? C'est ça ta vie? C'est acheter, vendre, acheter, vendre, c'est ça? C'est que ça? Effectivement, le monde est comme ça. C'est, on fait de l'argent. On a eu, notre vie est là où on met 80%, 70% de notre temps, réveillé, je passe à l'oubli la nuit, hein, à travailler et à aller produire de l'argent et de l'argent et de l'argent. Alors certains, évidemment, n'y arrivent pas. Effectivement, ça, c'est un autre sujet, etc. Mais on est là dans un monde où on pense que c'est ça la priorité. Ce que dit ce Rambam là, il te dit non. Notre vie est faite pour que tu aies, quand tu vas travailler pour une bonne raison. D'accord? Alors, par exemple, il y a des gens qui doivent travailler. Moi, je connais quelqu'un qui est riche, d'accord? Et qui doit travailler, encore, parce que s'il ne travaillerait pas, il déprimerait un peu. D'accord? Ça lui ferait du mal. L'infini, c'est-à-dire qu'il ne peut pas étudier toute la journée, il ne peut pas, etc. Donc, il va travailler. Très bien! Ça s'appelle pour le sourire à gouffre, pour le besoin du corps. J'ai besoin de ça. Mais sinon, rien. Donc, bientôt finir, comme ça après vous poserez vos questions si vous aimez. Alors maintenant, je ne sais pas si, j'espère que vous resterez tous en Israël, enfin, que vous serez où vous serez bien en tout cas. Moi en fait, donc dans mon environnement de travail, donc je travaille avec des non-juifs, d'accord, je travaille avec n'importe qui. Et finalement, ce que j'ai découvert avec mon premier mentor quand j'étais en terminale, c'est qu'effectivement, il n'y avait absolument pas avoir honte de son judaïsme. En général, on voit son judaïsme comme un boulet. Oh là là, j'ai un entretien d'embauche, tu penses que je dois lui dire au premier entretien que je fais Yom Tov? C'est comme ça que les gens posent la question. C'est, tu crois que je dois lui dire que le vendredi, je dois partir plus tôt? Tu crois que je dois lui dire que moi, je veux faire aussi Chol HaMoed, etc. Tu crois que je dois dire que je mange kasher et donc je ne vais pas pouvoir manger à la cantine et je ne vais pas pouvoir être avec les collègues? Tu crois que je vais pouvoir dire qu'à la soirée de fin d'année, je ne vais pas pouvoir venir parce qu'il y a, la crèche et le sapin? Ce n'est pas que pour ça, hein, mais c'est une des raisons. Est-ce que je cache ça? C'est mon petit secret que j'ai dans un truc, comme Esther Amalka. Esther cachait, effectivement, à l'époque d'Achashverosh, avait caché son judaïsme. Mais là, si vous vous rappelez, vous connaissez les circonstances, c'était un vrai autre sujet. Mais est-ce que je cache mon judaïsme? Ou est-ce que finalement, je vis ma vie de juive ou de juif? Et je dis, moi je mange kasher. Et là, je peux vous assurer, que si vous restez chalem, vous restez complet, ça veut dire que vous avez en permanence dans votre vie, vous décidez de faire l'ensemble des mitzvot. L'ensemble. C'est pas on choisit uniquement celle où c'est pour partir plus tôt le vendredi. D'accord? Et à côté, on ne mange pas spécialement kasher. Donc si vous décidez de faire l'ensemble des mitzvot, vous allez voir que les gens vous admireront. Tous les gens que je connais, tous les hommes d'affaires orthodoxes, comme on dit quand on coche les cases. D'accord? Tous les hommes d'affaires qui sont juifs pratiquants et qui n'ont absolument aucune honte, en fait, les gens avec qui ils travaillent sont admiratifs de ça. Moi, quand j'ai commencé, donc mon premier emploi, ça a été dans un groupe de presse, donc comme j'ai expliqué, donc c'est journaliste informatique. On était 200 personnes et dans la société. Et moi, j'étais le plus jeune employé au monde. D'accord? Je crois que c'était un groupe de, je sais pas, 2-3 000 personnes. Et donc, ils m'ont accueilli avec un biberon sur le bureau. Bienvenue Jérémy. Ils m'ont accueilli. Et là, moi, j'y arrive. Le premier jour, je fais, allez, je vais manger, je mange kasher, qui vient avec moi? D'accord? Il n'y avait pas un seul juif qui était là. Hein. Alors, il y a Frédéric, Bruno, José. C'est vraiment les noms. C'était les prénoms de mes collègues. C'était des gens très sympas, vraiment, avec qui je suis toujours très proche. Et qui vient avec moi? Ah bah ouais, super, j'ai jamais mangé kasher, ça ressemble à quoi? Je fais, bah c'est pareil, tu vas être déçu. Alors il fait, bon, ok. Et on avait un restaurant à côté. Pardon? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, je sais pas, ça, on me dit ça à chaque fois. sais, plus cher, pas plus cher. Et tu peux pas imaginer à quel point les Français dépensent pour leur manger, pour la nourriture. Tu peux même pas imaginer. C'est. Donc j'invite mes collègues. C'est bon, et là il y a Frédéric qui m'annonce qui vient avec moi. Allez, on y va. Hop, on va manger. C'est super sympa ce resto et tout ça. Hop. Et donc le jour d'après, je dis Frédéric, tu veux qu'on aille au déjeuner? Il fait ouais, je viens avec toi. Le lendemain, il fait non, bon Jérémy, là j'ai mangé ça, je vais manger ailleurs, etc. Donc je vais te manger seul. Et une autre fois, je retourne seul, et pas, je vois lui avec d'autres collègues, pas juifs, qui sont tous en train de manger. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? C'est un resto. C'est un resto. Et il était, alors bon, j'avais la chance à ce moment-là d'avoir le resto à côté du bureau, etc. D'accord? Dans certains pays, bah, il faut amener son petit bol, son petit truc, et voilà. C'est, des fois, ça devient plus compliqué. Mais bon, les Français, on a énormément de chance dans les villes, dans les grandes villes, d'avoir à peu près ce qu'il faut. Et là, et donc c'était comme ça. Un jour, je me retrouve dans les années 2000. Donc j'étais en fait à la télévision quasiment tous les jours. Envoyé spécial, Canal+, tous les trucs, le start-upper, le Bill Gates, et tout ça. Ils sont bien éclatés. Et moi, j'étais genre, on me prenait la main. Alors tu vas aller sur ce plateau-là et tu vas là, ça, c'était ça. Et donc j'étais devenu très très proche des hommes politiques. Je donnais des conférences au Sénat. J'allais à l'Élysée régulièrement, c'était bon, rigolo. Et là, vous connaissez Forrest Gump?
Ouais.
Voilà, pareil. La même chose. Je me retrouve avec plein de gens tout le temps. J'étais... À l'époque, moi j'étais... Enfin, toujours aujourd'hui, j'étais très proche de Thierry Lhermitte, l'acteur. On se connaît depuis que j'ai 17 ans. Et on allait, en fait, on se baladait dans les salons informatiques ensemble, etc. Je dis, ah bon, c'était People, d'accord? J'étais associé à Jean-Luc Delarue, si vous connaissez. J'étais actionnaire de sa filiale Internet. Bon, allez, aujourd'hui, je n'aurais pas accepté de l'être, hein, mais à l'époque, ça a été. Et paix à son âme. Oui, c'est ça. Un jour, je me retrouve avec la conseillère de Jacques Chirac dans les nouvelles technologies qui s'appelait Valérie Pécresse. Voilà, que vous connaissez aujourd'hui. Voilà. Elle était ministre de l'Éducation, maintenant elle est présidente de la région Île-de-France. Et Valérie, donc Valérie et moi, on était très proches, d'accord?
Façon de parler.
Et donc, elle me posait plein de questions, etc. Et un jour, j'invite à déjeuner à côté de l'Élysée. Elle me dit, viens à l'Élysée, on te fera un cachère. Je lui dis, mais c'est quoi faire cachère? Pardon? Ah bon, on tutoie, ouais, ouais. Et viens à l'Élysée, on peut faire un repas cachère. Je lui dis, c'est quoi le repas cachère? Il me dit, non, je sais, il trempe la vaisselle ou je sais pas quoi. Je lui dis, non, laisse tomber. Viens, il y a un truc, il y a un resto Shinichita juste à côté. Il y avait un resto juste en bas. Je lui dis, viens à côté. Et donc, on a été au resto Shinichita. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est bon, c'est meilleur que la cuisine que les deux Élysées. Et à chaque fois, et donc après, à partir de ce moment-là, donc elle adorait le resto, on était au resto là, les gens ne le connaissaient pas à l'époque, hein, mais alors, à mon avis, elle n'a aucun problème pour y aller encore maintenant. Et très souvent, quand j'étais à Chichita, ils me disaient, ah, tu sais, il y a Valérie Pécresse, elle est venue avec ses collègues la semaine dernière, etc. D'accord? Donc en fait, au final, on a des moments où on est frustré, on a peur de dire, on a peur de parler de notre judaïsme, mais quand on en parle, les gens vont dire, ah, c'est super sympa. Et là, je vous raconte une autre histoire. J'avais ma boîte, on avait déménagé dans les nouveaux locaux quand on a commencé à grandir. Et à un moment, on a mis des mezouzot aux portes. Et donc, j'ai fait ça le soir, les employés n'étaient pas là. Et on a mis des belles, j'ai vraiment mis des mezouzot sympathiques, un peu marbrées comme ça. Hein. Et donc, les employés, le lendemain matin, arrivent. Donc, on devait être 25-30 comme ça à l'époque. Ils arrivent et ils me disent, c'est quoi ça? Alors, je fais, regarde, c'est quelque chose qu'on a, les portes, quand il y a une maison juive, c'est comme ça que. Bah, voilà. Et il y a ma directrice financière de l'époque, arrive, et me dit Ah, Jérémy, j'avais entendu parler de ça, je sais que ça porte bonheur, c'est comme ça qu'on fait? Ah, mais comme ça. Et tous les matins, elle embrassait la mezouza. Tous les jours, alors, même à sa porte. Je ne plaisante pas, c'est vraiment comme ça. Et un qui arrive. Mon directeur technique qui arrive et qui me dit de l'époque et qui me dit Jérémy, déjà nos bureaux sont rue du Sentier, en plus tu mets des mezouzas, trouve pas qu'on exagère un peu? Alors je dis bon, si t'es pas content, de toute façon c'est pareil, mais je vois absolument pas ce qui te dérange, en gros dégage. Bon. Ce personne-là, finalement, ce directeur technique-là, Deux mois après, j'apprends qu'il était en train de m'escroquer, d'accord, qu'il était en train de nous faire sous-traiter des choses qu'il faisait lui-même et qu'il prenait l'argent derrière. Et deux, la personne qui me l'annonce me dit « Ton directeur technique, il ne s'appelle pas Royer, il s'appelle Rosenberg. » D'accord ? Et donc en fait, très 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 souvent, enfin moi c'est 100% du temps, 100% hein, de mon expérience, ce sont les juifs qui vont vous embêter quand vous allez être pratiquant. Ce sont les juifs, moi je l'appelle les juifs honteux, mais bon. Et enfin lui il était tellement honteux qu'il m'a jamais dit et il avait même changé de nom. Donc c'est comme ça, c'est qu'au final, le monde entier, si vous êtes Shalem dans ce que vous faites bien les choses, vous faites l'ensemble des choses, sans exception, effectivement, les gens vont voir ça bien. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire faire bien, faire du bien quand on est dans l'entreprise? Ça veut dire être meilleur que les autres. C'est-à-dire, vous devez être la personne la plus sympathique de l'entreprise, une des plus sympathiques, donc les gens qui sont un peu renformés, faites gaffe, faut faire en sorte d'être sympa. Les gens passent un bon moment avec vous. Que vous soyez des personnes intéressantes, quand on a envie de s'asseoir et de se confier à quelqu'un, c'est à vous qu'on a envie de parler, parce qu'on pense que vous n'êtes pas foufou, vous êtes des gens bien, etc., etc. Donc en fait, je peux vous donner, il y a quelques règles comme ça qui ont été écrites. Il y a un homme qui était le vice-président de IAC. IAC, c'est la boîte qui est derrière Expedia. Il a même été, je crois, le directeur marketing de Danone, un petit truc, et qui est orthodoxe. J'essaie de vous trouver comment il dit ça. Voilà, vice-président marketing de Danone, ex-directeur marketing du groupe IAC. Il a listé 6 règles. Donc il a dit être gentil avec les gens, être la personne la plus sympathique, celle qui fait des compliments, celle qui considère les autres. Si vous considérez bien les gens, ils vous respecteront eux-mêmes et vous aimeront en tant que personne. Faire du travail de qualité exceptionnelle. Donc on coupe le smartphone, hein, déjà ça aide. Nous devons connaître notre secteur parfaitement bien, acquérir le maximum de connaissances, être créatif, aider les gens autour de soi, faire en sorte à faire un travail exemplaire. Il faut être constant dans notre religiosité. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de dire je ne fais pas que les trucs qui m'arrangent, je veux les fêtes, je veux les jours de congé. Et d'un autre côté, il n'y a pas cachet, il y a la relation homme-femme, des fois, peuvent être problématiques. Il y a le sujet de l'Ichot Ichoud. Je ne sais pas si on vous a déjà appris l'Ichot Ichoud. Non ? D'accord. Quand on est dans les bureaux, on a des gros, gros problèmes de se retrouver avec une femme dans le même bureau avec la porte fermée. D'accord. Mais il y a des halakhot très, très, très claires dans le judaïsme et qui doivent être appris obligatoirement avant de commencer à travailler. Parce qu'il y a des moyens de s'en sortir. Parler, on n'est pas, on peut parler de tout. C'est-à-dire qu'on n'a aucun problème pour aller parler politique, pour aller parler du match de foot de la veille, etc. Donc, montrer qu'on est quelqu'un de normal. Donc, comme j'ai expliqué, faire qu'on est quelqu'un dont on aime la proximité et évidemment étudier et améliorer notre connaissance en dehors du travail. Mais il faut savoir, à chaque fois que j'ai un rendez-vous, je vais dire 80% du temps, chaque fois que j'ai un rendez-vous avec un juif ou un non-juif, j'ai au moins la moitié du rendez-vous qui me parle, qui me demande ce que j'ai étudié la semaine d'avant. Ce que je suis en train d'étudier dans le Talmud, est-ce que j'ai déjà vu ça, qu'est-ce que je pense de ça. C'est en permanence. Parce qu'effectivement, les gens se trouvent intéressants. Je me retrouve à table avec des collègues non-juifs, d'accord, dans un resto cachère, évidemment. Et ce qu'ils me demandent, c'est effectivement de savoir ce qui se passe. Moi, il y a Axel Lemaire, je ne sais pas si vous connaissez, qui est la secrétaire générale du numérique en France, et est venue en Israël il y a quelques mois. Et elle est venue, et elle arrive pour me serrer la main. Je fais « Ah non !» Désolé, je peux pas. Ça serrer la main, attendez, ça c'est un sujet, j'ai pas parlé. C'est le plus dur, le pas serrer la main, mais ça on en parle dans deux secondes. Et je suis désolé, je peux pas. Alors elle me dit, bon, non, c'est pas grave, allez, viens, asseyez-vous. Elle me dit, regarde, moi j'en ai marre de parler start-up. Ma mère est philo, est prof de philo. Venez, on parle un peu de Talmud. Expliquez-moi un peu ce que c'est le Talmud, je connais rien. Et on commence, on est assis, et on est là, il y a les caméras, les journalistes autour, etc. Et je suis en train de lui expliquer, elle me pose des questions, etc. C'est le même. Je me retrouve avec Emmanuel Macron il y a un an, d'accord ? Emmanuel Macron, on se retrouve chez l'ambassadeur de France. Chez l'ambassadeur de France, à Yafo, à Mémoire. L'ambassadeur de France, l'ex-ambassadeur, enfin c'est la même maison. L'ambassadeur de France en Israël. Et on se retrouve donc chez lui, on se retrouve à déjeuner. Et il voit que je ne mange pas. Parce qu'effectivement, eux, ils mettent des panneaux cachers, mais en fait, c'est absolument pas cachère ce qu'il y a là-bas. Et donc, je ne mange pas. Et là, Emmanuel, et donc, moi, on m'a assis à côté. Donc, moi, je suis l'ambassadeur de la French Tech en Israël. Je sais pas, c'est un truc. C'est, la French Tech, c'est genre l'emblème du monde de la high-tech français. Et l'ambassadeur, c'est moi. Et donc, on m'assoit à côté de lui. Donc, on était une dizaine autour de la table. Et il voit que je suis le seul à ne pas manger. Il me dit, Jérémy, il m'a tutoyé direct. Sympa. C'est cool. Et Jérémy, pourquoi tu manges pas? Alors j'ai dit, non, regarde la cache-croûte et tout. Il me fait, ah, tu peux m'expliquer une bonne fois pour toutes la cache-croûte? J'ai rien compris. Et donc je commence à lui expliquer certaines choses, etc. Bon, et au final, on a passé toute la conversation en aparté. On a parlé de Torah. Après, on a parlé de start-up. Et en fait, effectivement, Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a mon portable, j'ai son numéro de portable, il m'appelle régulièrement, on s'appelle régulièrement, pour parler de sujets de business, des sujets des écoles juives et des sujets des présidentielles, de plein de choses. D'accord ? Et en fait, dans tout ça, il s'est monté qu'il y avait de la Torah dedans. D'accord ? Et les gens se rappellent, me voient en tant que le juif orthodoxe. Quand un jour, j'avais un autre rendez-vous avec Macron à Bercy, et en fait, je sais qu'il a plein d'assistantes. Il a bien choisi. Et donc, moi, j'avais reçu, genre, je reconnaissais une d'entre elles et je dis, Dorothée, j'envoie un SMS. Ce que je fais en général, en fait, parce que serrer les mains, c'est vraiment le plus dur, parce que je ne veux pas vexer les gens. Ce que je fais en général, c'est que j'avertis à l'avance. D'accord ? Quand la personne, quand je vais rencontrer une femme le lendemain, je sais que je vais avoir un rendez-vous, il y aura une femme, je lui envoie un mail en privé. Je dis, voilà, juste, je m'excuse à l'avance, mais je ne sers pas la main aux femmes. À part ça, je suis très sympa. Et d'ailleurs, une fois j'ai fait ça, parce que je devais, j'ai une parenthèse, mais je devais donner une conférence au Palais Brongniart, c'est à la Bourse de Paris, avec Challenge. Le magazine Challenge a organisé un grand événement, et moi je devais être sur scène avec deux femmes et le journaliste. Et donc je me suis dit, regarde, encore quand je me retrouve face à une femme, je peux lui faire comme ça, etc. Mais là, si je me retrouve sur scène devant 2000 personnes, ça va être chaud. Et donc j'envoie un mail aux deux, que je connaissais pas, hein. Je connaissais de nom un peu, mais que j'avais jamais parlé avant. J'envoie un mail aux deux, et je dis voilà, juste voilà, comme tu sais peut-être, je suis juif orthodoxe, etc. Donc voilà, le seul truc, c'est que je ne sers pas la main aux femmes, mais voilà, à part ça, je suis très sympa. Et il répond, et il y en a une qui me dit, ah, mais en fait, Jérémy, les gens ne savent pas, mais je suis juive. Donc, je ne suis pas aussi pratiquante que toi, mais en tout cas, je sais très bien qui tu es, ce que tu fais, j'admire beaucoup, t'inquiète pas, etc. Et l'autre qui me dit, Jérémy, aucun problème, ça ne me dérange pas du tout, je comprends parfaitement, à demain. D'accord ? Donc je m'en retrouve sur scène, je monte sur scène, et là, il y a les deux mains qui étaient déjà avancées, qui étaient déjà assises, et elles s'assoient avant moi, et quand elles me croisent, elles me font les deux un clin d'œil comme ça, genre, t'inquiète pas, quoi. Faut faire gaffe, parce que des fois, ça rend encore plus proche, les histoires-là. Mais voilà, et donc en fait, je vais aller à Bercy, et donc j'envoie à l'assistante, je lui dis juste un truc, je sais pas si tu sais, mais je tire pas la main. Elle fait non, t'inquiète pas, tout le monde ici est au courant. Un jour, il y a eu une dépêche AFP qui est sortie sur moi, qui s'appelait La double vie de Jérémy, et qui parle de effectivement un peu de mon parcours, etc. Et à la fin, ça finit avec mais Jérémy ne tire pas la main aux femmes, c'est le seul truc qu'il trouve compliqué, etc. Mais en gros, l'article est élogieux. Et vous avez dans les forums musulmans des discussions où les mecs ont dit « mais on ne comprend pas. Nous, quand on fait ça, on nous traite d'extrémistes, on nous massacre, etc. Lui, quand il fait ça, on lui fait une dépêche AFP. Je ne comprends pas. » Et en fait, moi, j'ai bien réfléchi pourquoi. C'est qu'en fait, finalement, c'est ce sujet de passer à la main, il est inclus dans… Ce n'est pas que ça, ma religion. Ce n'est pas que manger halal et de manger kasher et de passer à la main aux femmes. Ce n'est pas que quelque chose que je m'empêche de faire. C'est quand les gens se rendent compte que la religion me rend meilleur, que la Torah me rend meilleur, au final ils disent oh, c'est pas, il sert pas la main, mais au final, je reste, il est super sympa. C'est super intéressant de passer du temps avec lui. Vous voyez le truc ? Et c'est pour ça qu'en fait, le Limoud, la Torah, c'est ça le sujet intéressant. C'est ça qui fait que les gens ont envie de vous parler au final. Il y a un. Je vais finir. J'ai 230 pages. Non, je il y a une Gemara qui dit comme ça dans Maseret Nida, qui dit, bon, je la connais par cœur. Allez, hop. Qui dit qu'il y a un ange qui est Amemouné Baherayon, qui s'occupe des naissances. Et cet ange s'appelle Laïla. Et l'ange vient avant une naissance, il vient devant Dieu et il dit, cette Tipala, donc ce fœtus-là, disons, est-ce qu'il sera Chacham ou Tipesh? Est-ce qu'il va être intelligent ou bête? Est-ce qu'il va être Gibor ou Chalash, fort ou faible? Est-ce qu'il va être Ashir ou Ani? Est-ce qu'il va être riche ou pauvre? Donc là, on est 9 mois avant la naissance. D'accord? Et Dieu va décider si la personne va être riche ou pauvre. Je vous laisserai poser les questions. Il y a plein de questions là-dessus. On va voir si vous les poserez. Mais va se décider s'il va être riche ou pauvre. Et la Gemara demande, mais et pourquoi il ne demande pas s'il va être sadique ou racha? Et il dit, Kedera Bichanina, Bara Bichanina, Akol Bide Shamaim, Chutz Mira Shamaim. Tout est dirigé par Dieu, sauf la crainte de Dieu. Ce qui veut dire, sauf les actions que l'on va devoir faire avec crainte de Dieu. D'accord? Donc c'est effectivement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le moment où je vais décider d'aller au resto kasher, où je vais décider de manger une salade sans sauce, dans le resto pas kasher. D'accord? Au moment où vous allez décider l'un ou l'autre. Ça, c'est la seule décision que vous prenez dans votre vie. C'est ce moment-là. Alors, il faut savoir que Rav Dessler explique qu'en fait, on n'a pas tous les mêmes épreuves. On a tous des épreuves à notre niveau. Moi, aujourd'hui, de savoir est-ce que j'ai dans un resto cachère ou pas cachère, c'est plus une question. D'accord? Et en fait, pourquoi? Parce que j'ai conquis ce sujet. D'accord? Je l'ai conquis comme une guerre. D'accord? J'ai conquis ce sujet où j'ai plus de questions. Et au fur et à mesure qu'on avance, on peut conquérir des choses dont on n'aura plus de questions. Et à l'envers, on peut conquérir, mais dans le mauvais sens, de ne plus se poser de questions quand on fait quelque chose de mal. Par exemple, si quelqu'un dit « Moi, je mange des salades dans des restaurants pas cachères », à un moment, il ne va même plus, en général, d'accord, c'est comme ça que se sont passés dans les générations de nos parents et grands-parents, etc., ils vont même plus, en fait, se dire « Est-ce que je fais bien ou je fais pas bien ?» C'est qu'en fait, ça va rentrer, ils vont complètement être rentrés dans cette erreur, et complètement oublié qu'il faut se poser des questions. Donc en fait, nous, on doit aller en permanence aller conquérir des bonnes choses. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous dire. Il y a plein de sujets, il y a plein de sujets, comme j'ai expliqué, dans le monde du prochain Mishpat, de ce qu'on appelle les lois de financières, monétaires, Nezikin, les lois de dommages. Donc tout ce qui concerne les lois du travail, il y a énormément de lois à prendre. Elles sont aussi importantes que les lois de Shabbat, elles sont aussi importantes que les lois de Kashrout, elles sont aussi importantes que le reste. Donc voilà, le but, c'est que quand vous vous retrouvez au travail, vous n'êtes pas en train de vous dire « je suis sorti de la synagogue », c'est que vous restez dans la synagogue, le monde entier c'est une synagogue, c'est un endroit en fait où Dieu se trouve, où Dieu attend de nous d'être de bons juifs. Et donc le but, c'est d'être en permanence se dire « je suis en train de travailler, je suis en train de faire mon service divin, je ne suis pas en train de faire autre chose. » Bahatzlacha à tous. Question. J'ai pas d'oreillette. Hein? Question.
Moi, je voulais savoir, quand vous faites votre service d'HM, votre prière ou votre étude, comment vous arrivez à vous consacrer uniquement à ça et pas à penser au travail, à vous dire que vous avez besoin de
super question. Super question.
De résoudre des problèmes économiques. Mmh.
Super question. Donc, vous avez entendu la question, tout le monde? Ouais, donc la question, c'est... C'est comment j'arrive quand je fais ma tefila, parce que j'y arrive d'abord, comment j'arrive à ne pas penser à mon travail, oui, au fait que je dois gagner de l'argent, je dois signer avec un client, etc. Je vais vous dire, c'est une épreuve de tous les jours. C'est une épreuve de tous les jours. C'est-à-dire que quelqu'un maintenant qui commence à tefila et qui commence à penser à d'autres choses, il ne faut pas qu'il se dise « j'y arriverai jamais ». D'accord ? Il y a des jours effectivement où j'arrive à gagner ma tefila, mais en général, je n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments de vide. Où je vais tomber dans la négociation du contrat. Là, j'ai un contrat dans ma poche que je dois envoyer cet après-midi. Je ne travaille pas le vendredi, mais là, c'est urgent. Voilà. Donc, ce matin, dans ma tuila, à un moment, j'ai dû un truc. Il dit, il ne faut pas que j'oublie d'envoyer le contrat. Truc. D'accord ? Mais ce qui est une halakha importante là-dedans, il y a deux choses importantes. Un, c'est si on étudie le moussard, d'accord, la hashkafa juive, et tous les sujets de Emouna, et on l'étudie en permanence. Donc ça, c'est le sujet que j'étudie par exemple une fois par semaine. J'ai 2 heures où j'étudie le sujet de Moussa. Au fur et à mesure, en fait, ces sujets-là perdent de l'importance. C'est-à-dire qu'en fait, on enlève à nos actions de l'importance, comment dire, on se rend compte que nos actions finalement ne sont pas ce qui compte, c'est effectivement notre service divin qui compte, plus que nos actions. Le Chazonish, ah, c'est Chazonish, Rafet Sraim, j'ai oublié, un des deux, qui dit que la tfila pour le travail, la tfila est bien plus importante, prend bien plus de part pour le résultat que la Ishtadlut, ce qu'on va faire. D'accord ? C'est pas d'accord ?
Ça veut dire qu'il faut penser à son travail pendant sa tfila.
Non, je dis pas ça. Au contraire, je dis que justement, c'est qu'à un moment, si vous vous rendez compte que finalement, est-ce que j'envoie le contrat cet après-midi ? Est-ce que je vais mettre ça dedans ? Est-ce que je vais mettre truc ? N'a pas d'importance réelle. C'est du virtuel, ça. Je vais faire mon travail, etc. Vous allez vous rendre compte que finalement, votre tfila, vous allez vous concentrer beaucoup plus. D'accord ? Et donc ça, c'est de l'étude permanente de Emouna. C'est avoir la foi que finalement, mes actions n'ont pas énormément d'importance. Maintenant, il faut savoir que dans la tfila, la Amida, elle est divisée en trois. D'accord ? Il y a les trois premières parties, c'est le Jvar. Et le milieu, c'est les demandes. Donc, quand moi, j'arrive à Barer Halenu, je demande. Mais je demande aussi Refoua et je demande aussi à Tachonel Adam Dat. Là, je savais que j'allais donner un cours aujourd'hui. Ce matin, je me suis concentré sur la Tachonel Adam Dat. C'est Dieu qui me sort les mots qui sortent de ma bouche. J'ai demandé ça. Et donc, il n'y a pas de problème de demander des choses qui ont l'air matérielles. Au contraire, c'est un problème de ne pas demander. Un jour, j'ai parlé à quelqu'un et je disais, mais prie. Il avait des problèmes financiers. Je dis, prie. Je crois que tu as que ça à faire qu'à m'écouter. Je dis, mais prie. Il me dit, non, c'est pas ça, je veux pas. Je dis, va voir un rave. Il me dit, mais je crois que le rave, il en a à faire de mes problèmes financiers et de ma machine qui est en panne. Je fais, mais prie. Je dis, c'est justement l'erreur qu'on peut avoir, c'est de penser qu'en fait, on ne doit pas prier pour ces sujets. Donc oui, on doit prier. Et oui, de temps en temps, il va y avoir des sujets qui peuvent prendre un peu l'attaque. Alors, et le deuxième conseil qu'il faut donner là, c'est que si à un moment on se met à penser, il faut s'arrêter et attendre. Attendez une minute, 30 secondes, une minute, ce qu'il faut. Essayez d'attendre et après repartir et continuer la tfila en se disant, c'est pas grave, on en a raté un bout. Mais il y a toujours un machal que les rabbinim donnent sur ce sujet-là, c'est si je suis un marchand de pommes et que j'ai ma carriole avec remplie de pommes et que j'ai une partie des pommes qui est tombée, est-ce que je vais dire, ah ben, c'est pas grave, il y a toutes les pommes, je les viens. Non, au moins, je vais essayer de récupérer, d'avancer avec ce que j'ai réussi. Donc, c'est pas parce que j'ai raté un bout que je dois le dire, je laisse tomber cette fille-là. Donc, après, à un moment, si ça reprend, à partir du moment où vous prenez conscience de ça, là, vous repartez. Et au fur et à mesure, les choses se passent très bien. Moi, ma tuile-là d'aujourd'hui, elle a rien à voir avec ce qu'elle avait, elle était il y a 5-6 ans. Mais rien à voir. À l'époque, c'était, je sais même pas si je pensais à Dieu, Bichlal. Mais vraiment. On a pas le... Vous savez, et d'ailleurs, Rav Ben Chetri dit un truc super sur la tefila, que vous allez voir demain, je crois, ou ce soir. Rav Ben Chetri dit un truc super sur la tefila. Il dit, regardez à quel point... Comment on voit que la tefila est quelque chose d'importante ? C'est que le Satan, c'est le moment où le Satan nous envoie le plus de pensées qui vont à côté. Il dit, ça prouve que c'est là que le Satan ne veut pas que vous fassiez cette chose-là. En général, quand vous voyez une épreuve, quand vous voyez que vous allez avoir des doutes, etc., très très souvent, c'est que vous allez dans la bonne direction. Très très souvent. C'est un grand clave. Mais en tout cas, pour la tuila, c'est là. Vous dites, c'est surréaliste. Tous les jours, je fais ma tuila. Tous les jours, j'arrive pas à me concentrer. Ouais, parce que c'est effectivement une énorme épreuve. Et il faut réussir à la diviser, à réussir à faire ce que j'ai expliqué. Mais ça, t'as
j'aime. J'ai une question. Est-ce que les mitzvot et les tout ça, est-ce que ça influence en bien sur ta vie, sur la
parnassa? Ça fait gagner plus.
Est-ce que ça bon là, alors, vu qu'on parle un peu de ça, ouais. Mais est-ce que ça influence en bien la vie? Par exemple, est-ce que quelqu'un qui fait Torah et Mitzvot, il aura moins de chances de tomber malade, ça?
Ah, est-ce qu'il a moins de chances de tomber malade?
Je sais pas, est-ce que ça influence en bien?
Regarde. La question c'est, est-ce que la Torah et les Mitzvot influence en bien la vie. C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'on est engagé, on a une certitude que quand on fait la Torah et les Mitzvot, on tombera pas malade, on sera riche, etc. Alors, ce que j'ai expliqué avant, donc avec la Gemara que j'ai rapportée, par exemple, la fortune et la pauvreté qui est définie avant même la naissance, la réponse, elle est déjà dedans. C'est-à-dire que de toute façon, je peux faire des Mitzvot et si je devais être pauvre, je resterais pauvre. Il y avait le... Pardon ?
Je dis pas une certitude, je dis est-ce que ça influence ?
Bien sûr que ça influence. Ah oui, alors d'accord, très bien, j'ai compris la question. Donc ça, évidemment, on n'a pas de certitude. Maintenant, il est évident que si quelqu'un a des... il devait avoir une certaine fortune, d'accord ? Fortune dans le sens, certaines sommes d'argent qu'il allait gagner dans sa part d'assain. Et certain que s'il ne prie pas pour, s'il ne fait pas les mitzvot pour, ça n'arrivera pas. D'accord ? C'est effectivement pour ça qu'à Rosh Hashanah, on demande la parnassa, alors qu'avec ce que je suis en train de vous dire, normalement, c'est fixé avant la naissance. Mais pourquoi on demande la parnassa, etc. ? C'est effectivement, il faut aller chercher ça. Il faut aller faire les mitzvot, etc. Et dans la Torah, quand on a dans Bim Berukotai et Telechou, etc., on a effectivement dans la paracha de Berukotai, te dit tu dois choisir le bien, etc., et je te donnerai les brachot, sinon je choisis le mal, etc. Bon, c'est un sujet un peu complexe, mais en tout cas, pour simplifier, oui, effectivement, ça amène du bien. Mais le bien, c'est pas toujours... C'est pour ça que je veux bien faire une nuance. Parce que pourquoi je fais une nuance ? C'est qu'il ne faut pas se dire, imaginons maintenant que je me fais virer de mon job, est-ce que ça veut dire que j'ai été un mauvais juif ? Il ne faut pas se dire ça. Est-ce que si j'ai perdu mon contrat, est-ce que j'étais un mauvais juif ? Si on se dit ça, en permanence, on est en déprime. Et on ne comprend pas. Il faut se dire, Hachem me fait du bien. On vient de me faire virer, ça va être mieux après. Mieux après, ça veut dire, je vais rester à la maison, ah tiens, je vais rencontrer mon mari à ce moment-là, et je vais me marier, j'aurai mes enfants, etc. Il peut se passer plein de choses. Mais Hachem veut notre bien. Donc à ce moment-là, c'est ça que tu dois avoir. Il faut se mettre dans ce mode-là. C'est pas, est-ce que je tombe moins malade, est-ce que je tombe ici. Si, chasvé shalom. Dieu pense que quelqu'un doit tomber malade à un moment, c'est qu'il doit tomber malade. Et que c'est ça qui doit se passer. Et que c'est bien qu'il tombe malade. Bien. D'accord ? Donc en fait, c'est pas, on n'est pas dans un modèle de donnant-donnant. Je te donne des mitzvot, Hachem, tu me donnes du bien. C'est pas, c'est, enfin, du bien. Du bien qu'on considère, qu'on pourrait calculer. C'est se dire, Hachem nous aime. D'accord ? C'est important. Et Hachem nous donne ce qu'il nous faut pour réussir notre vie. Et nous, au milieu, il nous donne les épreuves dont on a parlé. Et nous, au milieu, on doit prendre les bons choix à l'intérieur. Mais, effectivement, dans ma vie, je vois des miracles. Je fais un virement pour un don. Je gagne la même somme 1h, 60 minutes pile après. Mais la même somme. Et ce n'est pas un petit virement. 60 minutes. Ça m'est arrivé il y a un mois. 60 minutes. Je regarde l'heure des deux événements. Il y a des fois des choses comme ça. D'accord ? Il se passe plein de choses comme ça. Mais surtout, ne pas se dire qu'on fait les mitzvot pour cela.
En fait, ça apporte un flux de bien.
Ça apporte un flux de bien. Mais le bien n'est pas le bien que tu penses, toi. Là, par contre, c'est le Chazon Ish qui dit ça. Qui est dans tout le sujet de Emouna et Bitachon. Il ne faut pas penser que la Emouna, c'est de faire que Dieu va faire ce que tu veux. La Emouna, c'est de penser que Dieu va faire ce qui est bien. Cette phrase-là, elle est cruciale. Parce que, je veux dire, j'ai la émouna que ma boîte va réussir et que je vais avoir, que mon produit va bien marcher, etc. J'ai la émouna. Ah non, ça ne marche pas. Mince, qu'est-ce qu'il me veut Dieu ? J'ai fait une erreur, il y a eu quelque chose, j'ai mal fait ma mitzvot, etc. Non, ce n'est pas ça le sujet. Il ne faut pas que ça marche. Gamzou le tova. Ça aussi, c'est pour le bien. Ce ne sont pas des mots en l'air, toutes ces phrases. Hein. Il y a des fois, on dit les grands-mères sortent des trucs Gamzou les Tova, nanana. Mais ce sont des mots qui ont une importance forte dans la vie de tous les jours. C'est même quelque chose qui apparaît mal. Je peux vous dire, quand j'ai quitté Xavier Niel, d'accord ? Ça ne s'est pas bien passé avec nous, entre nous à la fin. Bon, je ne vais pas dire que j'avais peur, parce que je n'avais pas peur. Mais bon, ce n'était pas agréable comme situation. Et un jour, mais voilà, j'avais confiance en Dieu. Je dis, voilà. Dieu m'aidera à continuer, etc. Je sais que je prends la bonne décision parce que cette relation-là, elle était mauvaise pour ma avodat Hashem. Elle était mauvaise pour mon esprit. Et à un moment, un matin, je suis là et je me dis, allez, je sens que j'ai Dieu avec moi, je vais avancer, etc. Et les choses, finalement, ne se passent pas super bien. Et donc, à un moment, Dieu m'envoie du doute. M'envoie du doute dans ma vie. Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que ça va se passer comme ça ? Est-ce que ça va vraiment bien se passer ? Et à un moment, le même jour, où j'ai eu le doute, un petit doute comme ça, mais c'était un doute comme ça de passage, mais qui est important, parce que pour moi qui vis en permanence avec Dieu à mes côtés, c'était dur de penser ça. De commencer à douter, c'était une grosse épreuve. Et j'ai mon assistante, enfin notre assistant, qui est l'assistante de Xavier Niel et moi pour notre boulot, qui est chrétienne, qui a une petite croix là, et qui me parle au téléphone. Il me dit « Jérémy, je voulais vous souhaiter bonne chance. De toute façon, vous êtes un homme de Dieu, vous ne pouvez que réussir. » Comme ça, elle m'envoie le message. Elle me dit, elle est chrétienne, elle est là, elle est admirative de ce que je leur fais, etc. Et elle m'envoie le message, elle me dit « Mais oui, il y a Dieu !» Je l'avais déjà en tête, ça, mais quand ça revient, il y a eu... Dieu m'a envoyé une personne qui vient me le dire. Et bah, au Hachem, ça s'est passé, mais ça a été un feu d'artifice. Je ne peux même pas imaginer, bah, au Hachem, ce qui s'est passé. D'accord ? Même pas imaginer. Mais des miracles. Mais après un moment, il y a encore des épreuves. La fin décembre, j'ai eu une épreuve. J'ai eu un problème avec un client, il s'est passé des choses, il y a eu des trucs, un contrat qui a été annulé, un truc, etc. J'ai eu une épreuve. Ah bon, j'ai dit, allez, ça, je suis déjà passé par ces épreuves-là. Je me suis assis sur mon fauteuil, je me suis mis comme ça, pendant 10 minutes, j'ai dit, voilà, mon épreuve, c'est de dire que ce n'est pas important. Tout ça n'a pas d'importance. D'accord ? Je me suis mis comme ça 10 minutes, je me suis levé avec une pêche. Alors, c'était une vraie mauvaise nouvelle, quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, il dit, waouh ! Je me suis levé, j'ai dit, tout va bien. Un truc, j'ai fini de négocier le contrat, le nouveau contrat, etc., qui était moins bon que l'ancien, etc. Flamant, etc. Et là, je vois maintenant les résultats. Pourquoi Dieu m'a envoyé ce truc-là ? Pareil, c'était pour le bien. C'était, là, je vous dis, ça s'est passé dans les 20 derniers jours, d'accord ? C'est ce que je suis en train de vous raconter. Donc voilà, c'est ça le truc. C'est à un moment se dire, c'est pour le bien. Alors, des fois, on ne le voit pas le mois d'après. Quand Google voulait racheter ma boîte, d'accord ? Et je devais aller à Google Haifa. Donc, je devais aller habiter à Haifa. Finalement, Google n'a pas racheté ma boîte, j'ai été habité à Bnei Brak. Pensez que je me pose une question, si c'était mieux que Google me paye $1 million par an. C'était mon salaire, hein. C'est pas mal. Est-ce que c'était ma question ? Je fais non. Mes enfants habitent Bnei Brak, ils sont en yeshiva, mes filles sont heureuses, etc. Enfin, mes garçons, etc. Tout va bien. Ça. Mais heureusement, Google n'a pas acheté ma boîte. Qu'est-ce que j'aurais foutu à Haïfa ? Et en plus, il y a eu dans les bureaux de Google, il y a eu une roquette qui est tombée juste en haut de l'immeuble quand il y a eu la guerre du Liban après. Donc bon. Mais il faut le voir, tout ça. Vous voyez ? Mais on n'est pas là pour aller. On est là pour faire des calculs après. On se dit, tout va bien se passer, on avance. Et après, on peut s'amuser à aller recoller le puzzle. D'accord ? Des fois, on peut ne pas comprendre tout. D'autres questions ? Vous avez faim ? Il y a à manger, Gabriel ? Donc effectivement, si vous avez des questions à m'envoyer privé, mon mail c'est jeremy@berebi.org. Donc jeremy@berebi, donc jeremie, vous pouvez l'écrire comme vous voulez, ça marche. Et @berebi.org. Donc n'hésitez pas, m'envoyez toutes vos questions. BE2REBI. org.org. ORG. Jérémy@berebi.org. Voilà. À votre disposition. Shabbat shalom à tous.
Jérémy, je veux dire, j'ai eu une histoire. C'était il y a 5 ans.